Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 24 septembre 2015.
Heureux dénouement au Burkina Faso, la transition remise sur les rails, 8 jours après le coup de force du général Diendéré, qui a déclaré avoir eu tort de faire ce putsch.
C'est du temps perdu, je le reconnais. C'est des moyens perdus, je le reconnais. C'est des vies humaines perdues, je le reconnais.
L'armée nigériane dit avoir libéré 240 femmes et enfants dans un camp de Boko Haram.
Congo-Brazzaville, l'opposition prévoit une manifestation dimanche contre un possible troisième mandat de Denis Sassou Nguesso.
Lutte contre la rougeole en RDC, 500 morts depuis janvier.
Nous travaillons avec nos partenaires. Le gouvernement ne peut pas se targuer de dire « je vais le faire seul ».
Le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi.
Le président égyptien a gracié 100 prisonniers, dont 2 journalistes d'Al Jazeera, accusés de soutien aux frères musulmans.
Et l'Union européenne promet 1 milliard d'euros supplémentaires pour assister les réfugiés syriens au Proche-Orient.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal. Crise burkinabé, les regards sont maintenant tournés vers le gouvernement intérimaire, à présent que les autorités de la transition ont été rétablies dans leurs fonctions. Le chef des putschistes, Gilbert Diendéré, a reconnu devant la presse hier que l'heure n'était plus au coup d'État et a dit regretter son action, qu'il a estimée antidémocratique. Il a par ailleurs assuré que le régiment de sécurité présidentielle s'était cantonné, conformément à l'accord avec le haut commandement militaire et suivant les recommandations de la CDAO et les divers appels de la communauté internationale. Voici un extrait de la conférence de presse du général Diendéré.
Je ne vais pas nier qu'il y a eu des morts lors de ces événements et je répondrai éventuellement aux questions si on me les pose. Non, le plus gros tort a été d'abord de faire ce putsch, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de démocratie, on ne peut pas se permettre encore de faire des actions de ce genre. Mais enfin, cela s'est passé compte tenu d'un certain nombre de raisons que nous avons évoquées dans notre proclamation à l'époque. Et nous avons vu ce qui s'est passé, nous avons su que le peuple n'était pas favorable à cela, c'est pour cela que nous avons tout simplement abandonné. C'est du temps perdu, je le reconnais, c'est des moyens perdus, je le reconnais, c'est des vies humaines perdues, je le reconnais.
Le général Gilbert Diendéré s'exprimant hier à Ouagadougou.
L'armée nigériane affirme avoir sauvé plus de 240 femmes et enfants dans des opérations contre Boko Haram dans le nord-est du pays. Le point avec Michel Joseph.
Selon le porte-parole de l'armée nigériane, Sani Ousmane, ces femmes et enfants ont été recueillis mardi, alors que des soldats vidaient ce que l'armée a présenté comme des camps de terroristes près de Banki, dans l'état de Borno. En outre, 43 personnes suspectées d'être des combattants de Boko Haram, dont un commandant régional, ont été arrêtées, a ajouté le porte-parole. Sani Ousmane a précisé à l'AFP qu'il n'était pas clair si toutes les personnes sauvées avaient été kidnappées par Boko Haram et que des interrogatoires sont en cours pour connaître leur statut exact. En mai, plusieurs centaines de femmes et enfants avaient été libérés de la forêt de Sambisa, fief du groupe islamiste armé dans l'état de Borno, tandis que près de 180 personnes ont été libérées au sud de Maïdougouri, la capitale de Borno. Le président nigérian Muhammadu Buhari doit se rendre ce jeudi à New York pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations Unies et aussi assister à un sommet antiterroriste convoqué par le président américain Barack Obama.
Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Romain Kinfusia, président de l'Union pour la démocratie et la République, a dit que les gens vont descendre dans la rue ce dimanche pour protester contre la décision du président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat. Le chef de l'UDR Mwinda a déclaré que les Congolais vont suivre l'exemple du Burkina Faso, où la société civile et les syndicats ont joué un rôle clé pour empêcher Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat et fait en sorte que le coup d'État du 17 septembre a échoué. Selon la Constitution de la République du Congo, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 et seuls les candidats âgés de moins de 71 ans sont éligibles. Mardi, Denis Sassou Nguesso a annoncé un référendum pour modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat lors de l'élection de 2016.
Selon un rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui, les autorités rwandaises arrêtent arbitrairement et détiennent illégalement dans un centre de détention non officiel des personnes parmi les plus vulnérables du pays. Le rapport parle de détention illégale et mauvais traitement au centre de transit de Gikondo à Kigali. Il décrit des détentions prolongées entre 2011 et 2015, la détention arbitraire de personnes telles que des vendeurs ambulants, des mendiants, des sans-abri et des personnes soupçonnées de délits mineurs et le reflet d'une politique non officielle consistant à garder loin des regards du public ceux que les autorités considèrent indésirables, estime Human Rights Watch dans son rapport, ajoutant que jusqu'en 2014, de nombreux enfants des rues y étaient également détenus.
Les États-Unis se disent prêts à continuer à fournir une assistance à la Guinée-Bissau. Sur place, notre correspondant Nouaman Kali.
La disponibilité de cette puissance mondiale a été laissée ce jour à Bissau par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour la Guinée-Bissau et le Sénégal, James Peter Zumwalt, après avoir été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale populaire de la Guinée-Bissau, Cipriano Kassama.
We very much are supporting the democratic process in Bissau. And we are very pleased that all parties are attempting to resolve differences.
Ce diplomate nord-américain a assuré cependant que l'administration Obama est prête à reprendre et poursuivre le processus de mise en œuvre de tous les projets sectoriels qui ont été exécutés avant la chute du gouvernement de Domingos Simões Pereira, démocratiquement élu.
Well, that's something we wish to discuss with the new government ministers. So we're very eager to see a new government so we can have those discussions.
James Peter Zumwalt espère que la liste des membres du nouveau gouvernement qui sera dirigé par Carlos Correa soit rapidement publiée. Nouaman Kali, Bissau, VOA Afrique.
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a gracié 100 prisonniers, dont deux journalistes d'Al Jazeera. Mohamed Fahmy et Mohamed Baer ont été condamnés en août à 3 ans de prison sur des accusations de fabrication de fausses nouvelles et de soutien aux frères musulmans. Le parti de l'ancien président Mohamed Morsi, qui a été renversé par un coup d'État en 2013. Un autre journaliste, l'Australien Peter Grist, avait également été reconnu coupable, mais il a été expulsé d'Égypte en début d'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François est attendu ce jeudi au Congrès américain et ce au lendemain de sa rencontre avec Barack Obama. Le souverain pontife prononcera un discours historique devant plus de 500 représentants et sénateurs, des juges de la Cour suprême et des membres de l'exécutif, dont le vice-président Joe Biden. Ce sera une première, ce type d'honneur étant généralement réservé aux dirigeants étrangers. Après son discours en anglais, le souverain pontife saluera ensuite, depuis un balcon, une foule attendue de 50 000 personnes devant la colline du Capitole. Ce sera ainsi la dernière occasion d'apercevoir le Saint-Père dans la capitale américaine. 30% des parlementaires américains sont catholiques et 9 sur 10 sont chrétiens. Et le pape est une personnalité admirée tant par les républicains que par les démocrates.
Les pays membres de l'Union européenne ont conclu un accord sur la crise migratoire. Ils ont convenu notamment de mobiliser 1 milliard d'euros supplémentaires pour les agences de l'ONU venant en aide aux réfugiés syriens au Proche-Orient, a déclaré le président du Conseil européen Donald Tusk. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Chaque jour, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes arrivent aux portes de l'Europe. La plupart entrent par la Grèce et prennent la route des Balkans pour atteindre finalement l'Autriche et l'Allemagne. Mardi, 5 000 ont transité par l'Autriche et près de 9 000 sont entrés en Croatie, un record pour une seule journée. Le même jour à Bruxelles, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont convenu de distribuer 120 000 migrants venant de l'Italie et de la Grèce entre les membres du bloc afin de soulager ces deux pays. L'entente, bien qu'imparfaite, s'est confirmée hier lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les tractations ont été longues et difficiles, mais elles ont fini par assouplir la position des récalcitrants, la Slovaquie, la Roumanie, la République tchèque et la Hongrie. Hier à Bruxelles, François Hollande et les autres dirigeants ont pris l'engagement d'augmenter leur assistance aux réfugiés dans les pays voisins de la Syrie, un moyen avant tout d'éviter qu'ils risquent leur vie en essayant de rejoindre l'Europe. Autre domaine d'action proposé, le renforcement des frontières extérieures de l'Union en Grèce, en Italie, en Hongrie et en Croatie. Mais, soulignent les analystes, la source du problème demeure, le conflit en Syrie qui ne cesse de faire des victimes et des milliers de déplacés.
Le secrétaire d'État américain a averti que les actions russes en Syrie risquent de provoquer une confrontation avec la coalition qui lutte contre le groupe État islamique, tandis que son homologue russe prétend que Washington est de plus en plus réceptif à la position de Moscou sur le conflit. Le journal italien La Stampa a cité le secrétaire d'État américain John Kerry mercredi, disant qu'il avait transmis au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la préoccupation des États-Unis sur le soutien militaire de la Russie au gouvernement de Bachar al-Assad. Ces actions pourraient provoquer une nouvelle escalade du conflit, conduire à la perte de vies innocentes et augmenter le flux de réfugiés et risquer une confrontation avec la coalition anti-État islamique opérant en Syrie, a déclaré M. Kerry.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Écho vous est présentée ce matin par Anne Albertson.
La société belge Cacao International entend lever 9 millions d'euros en bourse à Paris et à Bruxelles d'ici la mi-octobre, afin d'étendre sa plantation de cacao en Côte d'Ivoire et d'en faire la plus grande du monde. Via sa filiale Solea, Cacao International exploite déjà 1000 hectares, dont 850 plantés, et se fixe pour objectif d'étendre sa plantation à 3500 hectares, dont 3000 plantés d'ici fin 2017. La levée de fonds de 9 millions d'euros net sera principalement utilisée pour obtenir de nouveaux droits fonciers. Le développement de Solea repose sur la location en fermage des terres appartenant aux communautés locales. La durée des baux correspond à la durée de vie d'un cacaoyer de l'ordre de 35 ans. Quand les premières récoltes commenceront à générer des revenus, 5% du chiffre d'affaires sera reversé aux propriétaires. Tasiast, la principale mine aurifère du Niger, est en mauvaise posture. Entre la baisse des prix de l'once et les coûts de production très élevés, le Canadien Kinross, cinquième producteur mondial d'or, a annoncé la réduction de ses activités dans ses exploitations et prévoit des licenciements. Selon le magazine Jeune Afrique, les autorités ont été fortement surprises par les réductions de personnel annoncées. Enfin, le port autonome de Cotonou a reçu le prix de la meilleure attractivité lors de la première édition des Awards des ports africains organisés à Abidjan. Un prix qui a pris en compte, entre autres indicateurs, le tonnage et l'escale par poste à quai. Le port de Tema au Ghana remporte le prix de la meilleure performance. Dakar au Sénégal remporte le prix du port le plus modernisé grâce à son système d'informatisation intégré, l'automatisation de l'accueil navire, le passage des marchandises et la mise à jour des données statistiques sur le site web.
Merci Anne pour cette page d'économie. À présent, les sports qui vous sont présentés par Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
On commence par le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs.
Oui, la FIFA a procédé hier au tirage de cette compétition qui aura lieu en décembre prochain au Japon. Le vainqueur de la Ligue africaine des champions entrera en lice contre Auckland ou le vainqueur de la J-League. Le FC Barcelone, tenant de la Ligue des champions en Europe, affrontera le vainqueur du match entre les Mexicains d'América et les futurs champions d'Asie en demi-finale.
La suite du feuilleton judiciaire de la FIFA.
La justice suisse a autorisé l'extradition du Vénézuélien Rafael Esquivel vers les États-Unis dans le cadre de l'enquête pour corruption visant la FIFA. C'est ce qu'indique l'Office fédéral de la justice à Berne. Monsieur Esquivel, arrêté le 27 mai dernier à Zurich et incarcéré depuis en Suisse, à 30 jours pour faire appel de cette décision auprès du tribunal pénal fédéral.
On parle des Jeux Olympiques 2016 au plan financier.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO d'été à Rio de Janeiro coûteront moins cher que celles de Londres en 2012. Dans un pays qui traverse une importante crise économique, le directeur des cérémonies du comité local d'organisation a affirmé que la conjoncture ne pèserait pas sur les festivités, dont l'objectif a toujours été, selon lui, d'éviter le pompeux. Je vous rappelle que le coût total des Jeux de Rio approche les 12 milliards de dollars, soit un peu moins que Londres 2012 et beaucoup moins que Pékin 2008.
Terminons par une brève insolite, hein, il n'y a pas d'âge pour faire du sport.
Ah oui, un guiré japonais plus que centenaire est entré au pas de course dans le livre Guinness. Il a établi le record du monde du 100 mètres des plus de 105 ans, adressant dans la foulée un clin d'œil à Usain Bolt, aux côtés duquel il rêve de courir un jour. Retenez bien son nom, Nathalie. Hidekichi Miyazaki, surnommé Golden Bolt, en référence à l'homme le plus rapide de la planète, il a parcouru hier la distance en 42 secondes et 22 centièmes, c'était à Kyoto.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Les autorités de la transition au Burkina Faso ont été rétablies dans leurs fonctions hier au cours d'une cérémonie solennelle. Les dirigeants de la CEDEAO qui avaient initié les négociations et qui ont assisté à la cérémonie sont repartis sans faire de déclaration. Bagassi Koura a joint un confrère, Damien Glaise, caricaturiste au journal du jeudi, qui revient sur le rôle joué par les dirigeants ouest-africains dans la crise.
D'abord, les Burkinabés ont des rapports avec la CEDEAO ces dernières années, ces derniers mois un peu méfiants. Depuis déjà l'époque de Blaise Compaoré, la CEDEAO avait des positions un petit peu ambiguës. Et dimanche, lorsque la CEDEAO est venue à Ouagadougou en pleine crise, sa proposition de plan qu'ils avaient faite à la fin de la journée apparaissait non pas comme le fruit d'une négociation, mais comme le listing de toutes les revendications des putschistes, que ce soit politique ou que ce soit par rapport aux questions militaires. Donc les gens étaient déjà très étonnés de ce plan qui n'était pas du tout équilibré et ne s'est pas dit grand-chose à Abuja. Ils sont revenus aujourd'hui, je crois, pour donner un certain poids à la reprise du pouvoir par le président Kafando. Maintenant, à partir du moment où le Djendjiré dit que lui regrette tout, ça veut dire qu'il n'y a plus de questions normalement à soulever. Si la CEDEAO doit encore suggérer une médiation quelconque, ben, il faut attendre ce qu'il propose. Mais sur les questions politiques, y compris le parti CDP de l'ancien président Compaoré, aujourd'hui ne demande pas l'inclusion.
Oui, justement, vous parlez d'inclusion et puis les autres sujets. La CEDEAO est repartie sans revenir sur ce point. Est-ce qu'on peut dire que cette crise a révélé un peu l'incapacité de la CEDEAO à faire face à des crises de ce genre?
Ben, exactement, parce qu'ils ont souvent des positions ambiguës. Et puis en fait, dans le déroulé de la semaine, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la CEDEAO qui a fait évoluer les choses. Ce qui a été vraiment l'élément qui a conduit au dénouement d'aujourd'hui, c'est le mouvement de troupes qu'on a vu, des troupes loyalistes de province qui se sont installées dans la ville. Et c'est là qu'on a eu un face-à-face entre les putschistes et l'armée régulière et que, sans qu'il y ait d'ailleurs le moindre tir, le rapport de force a été différent. Et c'est comme ça que finalement les militaires se sont retrouvés pour signer un accord, non pas auprès de médiateurs quelconques de la CEDEAO, mais auprès du Moronaba, l'empereur des Mossé, chez qui ils étaient donc l'ami. Donc la CEDEAO était à l'extérieur de ça. Et donc la CEDEAO, avec son plan du dimanche dernier, apparaît un peu décalé, incongru.
Du coup, on a l'impression que cette transition va se poursuivre sans que la CEDEAO joue un grand rôle.
Exactement, elle va se poursuivre. Le seul point positif que l'on peut voir dans ce putsch, qui a évidemment été tragique, puisqu'il y a eu pas mal de victimes, c'est qu'aujourd'hui les masques sont tombés. On sait exactement qui veut quoi. Le RSP, manifestement aujourd'hui, a une source de nuisance, une capacité de nuisance qui est bien moindre qu'avant. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, mais que l'élection devrait pouvoir se tenir avant Noël, dans des conditions que l'on espère les plus crédibles possibles. Et puis les candidats qui ont été exclus, ils pourront compétir au prochain scrutin. Donc je crois que tout ça va passer normalement.
Damien Glaise est caricaturiste à Gigi, le journal du jeudi à Ouagadougou. Voici à présent les réactions à Ouagadougou sur le rétablissement des autorités de transition après 8 jours d'incertitude dus au coup de force du général Diendéré le 17 septembre. Zoumana Ouanogo, notre correspondant dans la capitale burkinabé, a tendu son micro à des habitants et des personnalités.
Mon nom c'est Nana Pierre. Vraiment, le dimanche on était trop choqués. Quand Macky Sall a dit qu'il faut une amnistie pour nous les qualifier ce genre de personnes-là comme des terroristes, on ne peut pas fait une amnistie pour les terroristes. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents avec la décision de CEDEAO. La transition reprend son cours normalement. Et nous allons suivre ça de bout en bout. Quand j'ai vu Michel Kafando, on a senti que vraiment, c'est un président déterminé qui est prêt à servir son peuple. Ça me fait plaisir, ça me rend la joie et je suis fier d'être burkinabé. Ça m'encourage parfaitement à me battre pour mon pays.
Dene Abdoul Razagou, étudiant et à l'université de Ouagadougou. Quand tu dois envoyer la proposition, tu m'as passé en tout cas la proposition est en faveur du respect. Bon, j'étais découragé dimanche, mais aujourd'hui, je suis réjoui. Voilà, j'aimerais que la CEDEAO, avant de prendre une décision dans un pays, qu'il tienne compte de la décision du peuple avant de décider et non des intérêts personnels des présidents de la CEDEAO.
Cabré Mamadou, député au CNT, le Conseil national de la transition. Je suis également le président du PRIT Lanaya, le Parti républicain pour l'indépendance totale. On n'était pas déçu de la CEDEAO, on était déçu de Macky Sall. qui étaient dans des salles draps avec les putschistes. Donc on savait que sur les 12 à 14 chefs d'État, il y a beaucoup qui n'auraient pas épousé cette thèse-là. Effectivement, ce qu'on a pu entendre, Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara ont été malmenés, semble-t-il, à Abuja par rapport justement à cet accord. Et donc, on peut dire que ce n'est que le médiateur sénégalais qui n'était pas en phase avec le peuple burkinabé, mais l'ensemble de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest était en tout cas dans la même dynamique que le peuple burkinabé, d'où l'installation ce soir du président de la transition.
Je suis Laurent Monin, le secrétaire général des citoyens africains pour la Renaissance. C'est une fierté, c'est une grande joie, inestimable. Revoir Kafando, revoir tout le staff du gouvernement, c'est une très grande fierté pour nous au Burkina Faso. Parce qu'une fois de plus, nous avons montré que nous pouvons réussir là où vraiment c'est un peu difficile. Et nous pensons que le processus ira jusqu'au bout. Et réellement, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont venir après feront beaucoup attention. Ils feront tout pour répondre réellement aux aspirations des peuples burkinabés.
Moi, je pense que c'est plus une question de concrétisation, une question de renforcement qui doit montrer qu'en réalité, ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre n'était pas un hasard de l'histoire, mais c'était le fruit de la détermination du peuple burkinabé.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution. Cela devrait lui permettre de briguer un nouveau mandat alors que son second et dernier mandat se termine l'année prochaine. Pour l'opposition, c'est un coup d'État constitutionnel. Idriss Fall a recueilli la réaction de Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, le PCT au pouvoir.
Un référendum parce que le peuple congolais, après 13 ans d'expérimentation de la constitution du 20 janvier 2002, a pensé que cette constitution a aujourd'hui dévoilé toutes ses limites et que pour la suite de la marche du Congo, pour l'évolution démocratique, il y avait lieu de revoir cette constitution et de la changer. Et c'est une opinion populaire majoritaire qui s'est exprimée lors des consultations présidentielles, confortée à l'occasion du dialogue national qui s'est tenu à Sisi du 13 au 17 juillet 2015. Puisque pour les participants au dialogue, il fallait aller aux réformes institutionnelles. Mais comme le dialogue n'était pas compétent, il s'en est référé au président. Et le président, mis devant ses responsabilités, pour tirer les conséquences des conclusions du dialogue, conformément à ses prérogatives constitutionnelles.
La constitution actuelle limite les mandats présidentiels et normalement, le mandat du président Denis Sassou Nguesso se termine en août 2016.
Mais ça, c'est la constitution actuelle. Mais la volonté populaire consiste à changer cette constitution au regard des limites évidentes.
C'est ouvrir la porte pour un éventuel autre mandat pour le président Denis Sassou Nguesso.
Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous voulons d'une démocratie qui se consolide. Nous voulons que l'élan pris par le Congo, élan de développement, élan de transformation, soit perpétué. Ceci à traction faite de la personne de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas le problème d'un homme. Le problème qu'on veut régler, c'est le problème du Congo, de sa démocratie et le problème de la préservation de la paix.
Monsieur Denis Sassou Nguesso a cumulé près de 30 ans de pouvoir. Vous ne pensez pas que le Congo a d'autres enfants qui peuvent diriger le pays?
Mais qu'il y ait des enfants qui puissent diriger ou non, ça ce sera le peuple qui décidera. Parce que être investi président au Congo, mais celui qui sera élu par le peuple. Mais si le peuple veut de Denis Sassou Nguesso, il a des raisons. Il faut laisser donc le peuple s'exprimer.
Vous ne craignez pas un syndrome burkinabé?
Il n'y a pas de raison. Parce que le changement de la constitution, ce n'est pas une volonté individuelle de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas non plus la seule volonté du Parti congolais du travail. C'est la volonté populaire. Et si c'est la volonté populaire, nous sommes en démocratie. Qui peut aller au-delà de la volonté du peuple? Le pouvoir, nous ne le tenons pas du peuple. Ce n'est pas le peuple qui investit.
Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, joint à Brazzaville. Le Cameroun a renforcé le contrôle de ses frontières suite aux récentes attaques des militants présumés de Boko Haram. Le point dans un reportage de Moki Edwin Kinzeka, interprété par Lionel Gaïma.
Le gouverneur de la région camerounaise de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari, fait état de cette attaque en moins d'une semaine, y compris deux mardis, respectivement à Amchide, où les troupes camerounaises ont tué au moins 11 assaillants, et à Mora, où deux femmes kamikazes ont été tuées par l'explosion de leurs engins. Les autorités régionales redoutent des nouvelles incursions des insurgés au moment où les Camerounais s'apprêtent à célébrer la fête de la Tabaski.
Nous allons tout droit vers les fêtes de Tabaski. Il est donc urgent que nous doublions un code de vigilance, que les mesures prises soient appliquées dans toute sa dimension et tout doit être mis en œuvre pour les anéantir complètement, les mettre hors d'état de nuire. N'eût été cette vigilance accrue, le bilan aurait pu être très très lourd. Je voudrais tout simplement demander aux uns aux autres de ne pas baisser la garde, de mettre le pied sur l'accélérateur pour enfin nous puissions en finir, en découdre avec cette nébuleuse qui bat de l'aile.
Alors que la sécurisation des frontières rassure les habitants, elle entrave sérieusement les activités économiques, affirme Yaya Mboulé, vendeur de bovins et de moutons.
Les clients pleurent que c'est trop cher les moutons, mais c'est parce qu'il n'y en a même pas. Avec l'insécurité, pour aller chercher les moutons en brousse, et aujourd'hui avec l'insécurité qu'il y a dans le pays, ça gêne beaucoup. Ce qui fait que la paix n'a pas de prix. Le marché est sec et ça ne marche pas.
Pour sa part, la communauté musulmane prend des précautions, témoigne l'imam Ibrahima Haruna de Garoua.
On a doublé les barricades, on a réduit aussi le nombre de chants de prière à Garoua 1. C'était au nombre de 15 à 6. Tout ça pour pouvoir contrôler les fidèles.
Boko Haram a intensifié ses attaques au Cameroun depuis que ce pays a lancé une campagne militaire contre ce groupe radical islamiste. Les insurgés nigérians utilisent l'extrême nord camerounais comme zone de repli, d'approvisionnement et de recrutement. Le Cameroun a dénombré une vingtaine d'attaques sur son territoire ce mois-ci, la plupart contre les marchés, les quartiers populaires et les mosquées.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En République démocratique du Congo, les autorités s'inquiètent d'une épidémie de rougeole qui a fait 500 morts cette année. La province minière du Katanga est la plus touchée par l'épidémie avec 80% des cas déclarés et 90% des décès enregistrés. Roger Kalala joint à Kinshasa le ministre de la Santé, Félix Kabangé Numbi.
Nous pensons qu'avec les mesures que le gouvernement de la République a prises, avec ses partenaires bien sûr, notamment la distribution d'équipes de prise en charge au niveau des zones concernées et les campagnes de riposte dans le cadre de la vaccination dans les différentes zones, nous pensons que le nombre de décès va nettement diminuer. Cela se ressent déjà actuellement dans les semaines qui précèdent justement ce jour, où on a constaté que le nombre de décès est en train de diminuer. Et nous pensons justement avec l'amélioration de la prise en charge, cette létalité va encore diminuer.
Le gouvernement est-il capable de faire face à cette épidémie sans intervention étrangère?
J'aimerais d'abord rappeler que le secteur de la santé, c'est un secteur où nous avons un grand partenariat. Le gouvernement de la République a dépensé suffisamment de moyens, mais ces moyens ne seront pas suffisants à eux seuls pour endiguer ce problème d'épidémie qui est un problème qui s'étale sur plusieurs zones de santé. Et comme vous le savez, chaque fois qu'il y a des épidémies, ce n'est pas l'affaire d'un seul secteur. Nous travaillons en partenariat. Le gouvernement ne peut pas se targuer de dire « je vais le faire seul ». Quand bien même le gouvernement offre les moyens pour le faire, mais on ne le fera pas partout. Vous savez, la RDC est un grand pays avec beaucoup de réalités et beaucoup de priorités. Nous pensons qu'il est tout à fait normal que les partenaires qui nous ont toujours accompagnés et avec qui nous avons toujours travaillé, que nous puissions faire le travail ensemble.
Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabangé Numbi, était joint à Kinshasa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales. Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon jeudi à toutes et à tous.